enfin, je voulais ajouter quelque chose concernant ce que tu disais au niveau du fait que tu vendais autant avec DRM que sans DRM. En fait, Numilog et Immatériel ne desservent pas les mêmes plateformes. Ce qui fait que nous, par exemple, on n'est pas chez Auchan ou chez Darty, donc les gens n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils ont que du DRM, ils ne savent pas forcément qu'il y a une version sans DRM qui est vendue ailleurs. D'autre part, pour rajouter quelque chose d'expérience, je dirais, concernant les DRM, donc nous, on a une petite librairie numérique, en fait, où voilà, on teste un petit peu les pratiques d'achat des gens, ce qui se vend, etc. Et on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent du livre numérique sans forcément y avoir pensé avant, c'est-à-dire qu'elles cherchaient tout simplement une référence. Elles ont vu que c'était disponible en numérique immédiatement, sans frais de port, sans livraison, etc. Donc super génial. Et moins cher, un petit peu moins cher. Bon, voilà, mais des fois, quand quelqu'un cherche vraiment un livre, je pense qu'il ne regarde pas vraiment au prix. S'il en a besoin et qu'il peut l'avoir tout de suite, il l'achète. Et donc, on a constaté qu'à ce moment-là, donc c'est des gens qui n'étaient pas forcément partis, familiers, pardon, de la lecture numérique. Donc, au moment où ils constatent qu'il y a des DRM, parce que c'est quand même souvent le cas, on a un rapport de 1 sur 4. Je veux dire, quand il y a 4 ventes de livres avec DRM, il y a une personne qui nous contacte pour nous dire « je ne sais pas comment ça marche, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Voilà, donc c'est quand même assez important.
C'est énorme.
Voilà, c'est énorme. Et bon, une fois que la personne a compris comment ça fonctionnait, bon, elle s'est un petit peu embêtée au début. Après, voilà, ça marche tout seul, je dirais, mais c'est tellement difficile à utiliser dès le départ que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas, ou alors qui, s'ils ont envie d'y retourner, ils chercheront du contenu sans DRM.
Alors, concrètement, les amis, je travaille en bibliothèque, je suis responsable d'une bibliothèque médiathèque, je veux mettre à disposition de la lecture numérique. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est disponible? Comment ça marche? Et à quel prix?
Je t'en prie.
Bon, alors, je peux peut-être parler de l'expérience qu'on mène dans les médiathèques du Piedron, je ne vais pas généraliser, mais nous, on a fait un choix très clair. On est en cours, on est en train de travailler avec Immatériel. En cours de faire une offre de ressources numériques, et nous ça a été très clair. La ligne de départ, c'est non au DRM. Donc ça élimine beaucoup d'offres. Nous, il était hors de question d'offrir avec de l'argent public des ressources numériques qui étaient dont l'expérience de lecture était mauvaise, avec des contraintes. C'est comme si on disait à quelqu'un, vous voulez emprunter ce livre, très bien, est-ce que vous avez une voiture de couleur bleue? Non, vous ne pouvez pas emprunter ce livre. Voilà, on est dans des logiques qui sont à peu près les mêmes. Hein. Si vous n'avez pas le bon appareil, pas le bon logiciel pour décrypter, vous ne pouvez pas accéder à cette ressource. Donc déjà, on a éliminé la question. Mais c'est loin d'être facile à prendre, parce que derrière, vous avez aussi des tutelles qui vous demandent d'avoir des offres de ressources numériques, qui veulent pouvoir dire, on a un catalogue avec tant de livres numériques, qui sont proposés, et qu'il faut leur expliquer, mais on ne parle pas de livres numériques, on va parler de lecture numérique. Je trouve que cette approche-là est très, très intéressante. C'est quelle expérience de lecture, encore une fois, on va proposer. À partir de là, on n'avait plus beaucoup de choix, c'est-à-dire que le choix se réduit. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, il y avait une question de coût. Après, c'est sûr que les offres qui sont sans DRM aujourd'hui, en termes de coût, sont quand même plus intéressantes aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, selon les choix qu'on va avoir pour les bibliothèques. Deuxième élément, c'était pour nos bibliothécaires, c'est pas simplement quel est le catalogue, parce qu'on va se poser, mais est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas? Ça, c'est aussi des questions, mais est-ce que finalement, la nouveauté, est-ce qu'on a besoin de ressources numériques qui n'ont que de la nouveauté? Est-ce que notre travail, c'est pas aussi nous, bibliothécaires, de défendre aussi une littérature numérique, ou de défendre des éditeurs qui jouent le jeu de l'accès sans DRM, d'ouvrir un peu plus, et que l'expérience lecture soit la plus agréable? Ça, c'est un deuxième élément. Et puis l'élément, c'était quelle expérience de médiation, nous, bibliothécaires, nous pouvons faire? Est-ce que ce catalogue, si on ne peut pas faire l'acquisition de chaque titre, mais on a un bouquet, comment pouvons-nous, nous, le défendre? Est-ce qu'on a des possibilités qui sont offertes autour de la médiation? Voilà. Et ça, ça faisait partie de nos choix. Quelle expérience pour l'usager? Quelle expérience pour le bibliothécaire? Est-ce qu'il a une matière à pouvoir faire de la médiation? Et est-ce qu'il a matière, lui, de connaître l'offre qu'il va proposer? C'est ce qui a déterminé, nous, nos choix. Et vous allez voir que nous, avec cette grille de lecture, lorsqu'on a regardé tout ce qui nous était proposé, il y a beaucoup d'offres qui tombent à la corbeille, beaucoup. Mais au moins, le choix est dans une cohérence, la nôtre, hein, je ne dis pas que c'est la cohérence qu'il faut avoir, mais qui était dans ce choix-là. Pas de DRM, lecture numérique, expérience, et quel expérience le bibliothécaire a avec ses ressources numériques.
Il reste 10 minutes déjà, le temps passe très très vite. J'aimerais.
Excusez-moi, je voudrais savoir, parce qu'on parle de lecture numérique, mais pour faire de la lecture numérique, il faut avoir un support. Est-ce que les médiathèques mettent à disposition des supports?
Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que lorsque le MP3 est arrivé, on a proposé des iPods? Est-ce que lorsque les cassettes VHS sont arrivées, on a proposé des magnétoscopes? Voilà, c'est une question. Je ne sais pas si c'est une vraie question. Aujourd'hui, me semble-t-il, des personnes se tournent vers les bibliothèques. Voilà, on parle du livre numérique, on parle des liseuses, on a envie de connaître. Donc il me semble que la bibliothèque doit être un lieu où on peut expérimenter la lecture numérique. Mais s'il s'agit de dire, voilà, on vous donne une liseuse, on vous la prête pendant 4 semaines, ça se fait, hein ? Ça se fait, d'accord. On la prête 4 semaines, et puis à l'intérieur, on a mis du domaine public. Parce que c'est ce qui est le plus facile pour pouvoir charger. La personne prend cette... il va la manipuler. Il va lire le contrat social ou Baudelaire. Okay. Il va la ramener. Mais très vite, il va passer... Ou là, on était bon, ok, le contenant, je l'ai. Très vite, il va vous dire maintenant, en termes de contenu, qu'est-ce que vous allez me proposer? Elle est là, la difficulté. Parce que le domaine public, c'est intéressant. On peut proposer du domaine public. Hein. Il y a des plateformes aujourd'hui qui vous proposent le domaine public avec 2000, 3000 bouquins derrière. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Lorsque je regarde l'offre de Publi.net, par exemple, qui a un travail d'éditorialisation du domaine public, on va aller chercher dans le domaine public des livres dont eux, ils ont considéré que c'était intéressant, peu connu. Baudelaire, c'est intéressant. Mais lorsqu'on va avoir, par exemple, Boucher de Meudon, qui est proposé, qui est un chef-d'œuvre apte, qui est un thriller du début du XXe siècle extraordinaire dans le domaine public, heureusement que Publi.net était là pour le faire découvrir. Et heureusement que nous, bibliothèques, on peut faire découvrir ça auprès de nos usagers. Donc, offrir du contenant, oui. Le contenant des liseuses, oui, pour amorcer là-dessus. Mais n'oublions jamais que la lecture numérique ne peut, en bibliothèque, ne peut pas se limiter en un prêt de liseuse. Le prêt de liseuse, c'est le moyen de faire la promotion, de valorisation plutôt, de nos ressources numériques. Lorsqu'on revient, j'ai vu, maintenant, est-ce que je peux accéder à ce que vous avez comme ressources numériques avec la liseuse que vous me prêtez? Il y a des DRM, des collèges d'arbitre, vous ne pourrez pas. Bon, ma liseuse, elle est connectée. Oui, vous pouvez vous connecter à la ressource. C'est des questions. Hein. Bon, on tâtonne. Mais on ne peut pas limiter des bibliothèques pour traiter des liseuses avec un questionnaire derrière. Il n'y a demander à l'usager de remplir le questionnaire. Alors, les boutons, ils étaient agréables, l'affichage. Mais le lecteur, ce n'est pas un testeur. On n'est pas là pour faire du lecteur testeur d'appareil. Nous, notre appareil est là pour initier, amener vers une lecture numérique, encore une fois. Donc oui, il faut prêter des liseuses si on est dans une logique d'avancer vers une lecture numérique.
Je voulais juste ajouter quelque chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, la lecture numérique en bibliothèque, ça peut aller au-delà des appareils. C'est vrai que tu demandais, est-ce que les bibliothèques mettent à disposition des supports, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'accès distant. C'est-à-dire que si la ressource est interopérable, c'est le grand mot en ce moment dans le circuit du livre, elle peut être lue sur n'importe quel appareil, c'est-à-dire aussi bien dans les murs de la bibliothèque que chez soi, et il suffit à l'usager de se connecter. Donc aujourd'hui, pour moi, la bibliothèque, c'est aussi une place dans le réseau sur le web, et c'est plus seulement un lieu. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est votre rôle aussi à vous, en tant que bibliothécaire, d'aller, je pense, dans la vie numérique des usagers, c'est-à-dire, voilà, les usagers, ils vont être sur le web, sur Google, ils vont être sur Twitter. Et je pense que c'est en vous mettant en phase, en fait, dans cette vie numérique que mènent les gens, que vous pouvez arriver à les toucher et à faire votre travail de médiation.
J'ai pris comme principe qu'il y avait beaucoup de bibliothécaires, donc la discussion allait se diriger là-dessus. Vous êtes aussi des utilisateurs, et la plupart des réponses qu'il y a eu sont aussi pour des utilisateurs simples, c'est-à-dire que les accès qu'il y a chez Immatériel, qu'il y a chez Locomodo, qu'il y a chez Brajlon, ce sont des accès aussi auxquels vous allez avoir accès en tant que personne, pas uniquement en tant que professionnel ou éditeur ou autre. C'est vraiment une question qui va être très importante pour tous. Et comme on a décidé de nous faire ici, c'était plutôt de former, de commencer à former nos personnels à l'utilisation avant de commencer à penser à nos lecteurs. Déjà savoir nous ce que c'est pour pouvoir en parler. Je crois que c'est déjà aussi quelque chose de très important. Je voulais aussi dire que dans la salle, il y a le représentant de Facebook France, on va dire. Et on aurait voulu l'inviter, mais il n'y arrive pas aujourd'hui. Voilà. Donc, comme là, je vais me faire couper. Si vous avez des questions, vous pourrez lui poser directement. Mais j'aurais voulu savoir si vous-même, vous aviez, il me reste encore 5 minutes, s'il y avait des questions dans la salle.
Oui, bonjour, donc je suis médiathécaire moi-même et la question se pose sur ma médiathèque, j'arrive des Bouches-du-Rhône, donc pas très très long, sur le prêt justement de liseuse. Donc ce qui m'interpelle un petit peu dans ce que vous disiez là, on parle de confort, on parle de lisibilité, si j'ai bien cru comprendre, la liseuse a quand même des écrans adaptés. Pour éviter une fatigue trop importante à la lecture, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de lire sur un écran d'ordinateur qui n'a pas la même fonction à la base, si je ne m'abuse, sur des lectures longues notamment. Donc là, on aborde la lecture visiblement sur le web, moins que sur les liseuses justement, puisqu'il me semble que les liseuses sont dans ce problème, cette problématique commerciale, qui est que le producteur de la liseuse va être aussi le producteur du contenu et le vendeur du contenu, et qu'on se trouve donc dans une problématique de restriction de choix au niveau des contenus, puisque les catalogues ne sont pas forcément très importants effectivement sur les liseuses. Donc est-ce qu'il est judicieux, comme vous le disiez, de prêter ou non? C'est la question qu'on se pose nous. Et ensuite, le côté confort sur les écrans me pose problème sur les ordinateurs, quand on parle de lecture numérique, pas sur des liseuses justement.
D'accord. Alors, deux choses. Sur la lecture en accès, ce qu'on appelle en streaming, hein, c'est-à-dire l'accès en ligne, il faut savoir aujourd'hui que toutes les liseuses qui sortent aujourd'hui sur le marché sont des liseuses connectées, pratiquement. Soit 3G, soit Wi-Fi. Alors, certaines sont encore noir et blanc, d'autres couleurs, mais en tous les cas, ce qui veut donc dire que l'accès à distance en ligne, aujourd'hui, ne se pose plus en question d'écran ordinateur, se pose en question d'écran connecté. Ça, je crois que c'est très important de réfléchir en ces termes-là. Du moment où j'aurai un écran connecté, j'accéderai au livre, enfin, livre numérique, pour aller vite. Hein. C'est ce qu'on connaît avec la musique. Aujourd'hui, vous êtes abonné à une plateforme de musique en ligne, vous l'écoutez sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette, du moment où vous êtes connecté. C'est la même problématique. Donc, je pense que là-dessus, je pense que l'histoire du confort de la lecture, de l'expérience de lecture, elle se pose moins. Mais il est clair que proposé de François Bon, on a parlé il y a peu de temps dans son blog Le Tiers Livre, non, en commentaire d'un billet de blog, dans lequel il interpellait les bibliothécaires en disant « Mais si vous proposez des livres numériques en ligne que sur des écrans d'ordinateur dans vos murs, vous vous plantez. On ne lit pas un livre dans une lecture profonde sur un écran. Hein, » voilà. Même moi, les magazines, je ne suis pas convaincu avec les kiosques. Donc ça, c'est déjà un élément. Deuxième élément, est-ce qu'il faut prêter des liseuses? Encore une fois, je pense qu'on peut prêter effectivement des liseuses pour amorcer, puisque notre lieu, c'est d'essayer que la bibliothèque soit un lieu d'expérimentation de la lecture numérique, donc d'essayer de donner la matière à ce qu'il y ait une expérience autour de la lecture numérique. Mais pour moi, c'est des services qui ne sont pas pérennes. Ça va être à un temps. Et encore une fois, juste prêter des liseuses pour montrer ce qu'est une liseuse, je ne suis pas convaincu. Par contre, la liseuse qui est un outil, pour prendre l'exemple de ce qu'on nous allons faire à Romans, qui est un club de lecteurs numériques. On est un club de lecteurs numériques, on va remettre à leur disposition des liseuses avec à l'intérieur des ouvrages, et ils feront des critiques de ces livres qu'on va valoriser derrière. Donc, voilà. Et puis la liseuse, c'est un outil indispensable pour le bibliothécaire. Effectivement, je disais Claude, il faut acheter des liseuses pour nous, pour que nous puissions avoir accès à nos collections, et puis qu'on puisse les défendre. Le prêt, à terme, je ne suis pas du tout convaincu. Pas du tout. Sans parler de la problématique de la manutention, des plantages, des liseuses qu'il faut remettre à niveau.
Je voulais ajouter quelque chose concernant la lecture connectée, justement parce que donc nous, notre offre, en tout cas, c'est uniquement de la lecture connectée en ligne, sans téléchargement, donc sur écran connecté, c'est-à-dire aussi mes ordinateurs qu'iPad, que liseuse connectée éventuellement. Mais c'est vrai que quand on fait... j'ai envie de dire, le seul avantage du DRM, finalement, en bibliothèque, c'est que ça peut être lu offline. on peut télécharger et, si Dieu veut, on arrive à mettre le fichier sur sa liseuse. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gros progrès qui se font au niveau du web, c'est-à-dire avec l'HTML5. Aujourd'hui, on peut trouver des systèmes qui permettent de télécharger en cache dans le navigateur le contenu de la page web ou plusieurs pages web et de pouvoir y accéder ensuite quand on n'est plus connecté. Donc, ça signifie que quelqu'un qui est dans une gare et qui va sur le site de sa bibliothèque pour récupérer un livre, il profite par exemple de la connexion de la gare, et une fois qu'il est dans le train, qu'il n'est plus connecté, il peut continuer à lire offline sur son navigateur. Donc là, il y a des gros progrès qui se font à ce niveau-là. On a déjà testé chez nous, chez Immatériel, ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on le travaille un petit peu, qu'on le rende plus ergonomique, tout ça, mais ça marche. Donc je pense que la question de la lecture offline, c'est la prochaine étape, en tout cas pour nous, en tant que distributeur.
Moi, je pense aussi, moi je travaille beaucoup dans les quartiers sensibles. Il y en a beaucoup, quand on leur présente un livre papier, ils n'en veulent pas. On leur présente le même livre en numérique, ils prennent le livre numérique, ils prennent la tablette, ils regardent et ils commencent à lire. Le but, quand même, final, c'est que le lecteur en face lit et qu'on évite l'illettrisme, des choses comme ça, des gens qui ne lisent pas et qui se restent derrière des jeux vidéo toute la journée. Alors, s'ils prennent du plaisir à lire sur une tablette, prêté ou pas par une bibliothèque, et du moment qu'il lit et qu'il n'est pas devant la télé en train de regarder soit des télés, soit une émission ou de jouer à Xbox par exemple, et qu'il est sur une tablette en train de lire, bah déjà je pense que en tant qu'éditeur, là-dessus je pense que tout le monde est d'accord, on a fait notre travail, et que le bibliothécaire qui a prêté une tablette alors que le client est réticent à lire un livre papier et qu'il lit par contre une tablette, et bah on a fait notre travail. Donc il faut toujours laisser l'opportunité à tout le monde. Je pense que vous avez beaucoup d'enfants qui viennent dans vos bibliothèques. Et là, ils ne sont pas du tout papier et ils préfèrent chahuter dans la bibliothèque. Par contre, on leur présentait peut-être une tablette. Ils vont tourner les pages, ils vont lire. Et déjà là, on a accroché sur de la lecture.
Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, toutes les études nous démontrent aujourd'hui, je ne parle pas des tablettes, je parle des liseuses. Les liseuses renforcent le gros lecteur. On ne gagne aucun lecteur avec les liseuses. Tablette, c'est autre chose. Les tablettes, on est sur autre chose. La liseuse, c'est un outil pour le gros lectorat. Voilà. Enfin, c'est, je dis ça pour pas qu'il y ait de malentendus pour les bibliothécaires. Ils vont croire qu'en proposant des...
Surtout que Ludovic, je suis déçu, mais enfin, je suis plus fait de décevoir, mais on est en train de faire rentrer les jeux vidéo dans les bibliothèques.
Oui, nous aussi.
Désolé.
Plus dans les bibliothèques.
Une dernière question ? Non ? Ah.
Ça y est, ça va porter ?
Ah non, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait comme tout le monde et nous, on n'a pas encore gagné. Hein. On en parlait tout à l'heure. Hein. On est encore en train de se débattre pour les budgets. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous allez défendre un projet tel que de la lecture numérique et que vous avez une équipe derrière qui est concernée, c'est très important, et que ça n'est pas deux personnes, mais que tout le monde dit oui, ça, on va l'intégrer dans tout notre travail de médiation, qu'on va faire des bibliographies, on intégrera aussi le livre numérique, etc., etc. Ça a certainement du poids lorsque vous présentez le projet. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que la culture numérique au sein des équipes, c'est devenu aujourd'hui un élément fondamental pour pouvoir défendre des projets numériques. On est dans une période de restrictions budgétaires très sévères. Voilà. Aujourd'hui, les arbitrages se feront sur le numérique si on n'est pas capable de démontrer que c'est fondamental dans notre travail. Si une équipe n'est pas convaincue qu'une offrir des ressources numériques dans les conditions dont on vient de parler n'est pas essentielle, on n'arrivera pas à convaincre les budgets parce qu'on va vous dire, ben non, mais on vous met déjà des livres pour les acquisitions papier, etc. C'est fondamental. Alors nous, en roman, enfin, bon, je parle de roman, mais depuis 2006, nous, on fait un très gros travail aujourd'hui hein, autour du numérique, d'acculturation du numérique dans les équipes, dans les profils de poste, d'intégration, etc. Et aujourd'hui, ça a donné une culture commune au sein de l'équipe qui fait que sur des projets tels que ceux-là, c'est-à-dire pas seulement proposer des ressources numériques, mais faire de la médiation, de faire des cafés littéraires numériques, de proposer un salon numérique, ça enclenche. Et ça met du poids lorsqu'on doit défendre un budget. Alors que si c'est qu'une ou deux personnes qui portent cette histoire-là et que derrière disent, écoutez, moi j'ai des difficultés, je ne comprends pas, c'est plus difficile. Et ce que je vous dis là, ça paraît tout facile à dire. Hein. C'est une conquête de bibliothécaire à bibliothécaire. On est 42. Voilà. La problématique, on n'a pas formé sur le livre numérique, on a formé depuis sur les problématiques du numérique. Hein, c'est des conférences en interne, ce sont des portails de veille en interne. Enfin, voilà.
J'ai réussi à gagner 5 minutes, ça sera tout. Je vous remercie de votre participation.
À vous aussi.
Merci beaucoup, c'était très intéressant, je pense. Et on va laisser la place à la prochaine table.
Merci. Thank you.